que je n'ai pas salué. Je pense que j'ai dû saluer à peu près tout le monde. Est-ce que vous connaissez le système judiciaire français? J'espère pas trop, vous n'avez pas trop affaire à eux. Mais, ouais, voilà, c'est ce beau mot, c'est tellement compliqué. Si on n'est pas juriste, c'est vraiment compliqué de comprendre le fonctionnement de la justice. Et je vais prendre un exemple que j'ai trouvé cette semaine sur un procès sur l'amiante dans le Nord-Pas-de-Calais. Il est écrit, après 22 ans d'instruction, la haute juridiction judiciaire va décider ce lundi si un grand procès pénal sur l'amiante aura lieu ou non en France. Et l'avocat de la défense dit, est-il bien optimal qu'une instruction dure 22 ans, conduise à la constitution d'un dossier de 38 tomes et 30 000 pages, aboutisse à des mises en examen, que ces mises en examen soient annulées deux fois, viennent deux fois devant la Cour de cassation, plutôt que de conduire à un renvoi devant une formation de jugement pour un débat pleinement contradictoire sur le fond. Voilà. Alors là, ouf. On voit que c'est un procès bien compliqué. Et puis, voilà. Imaginez, 22 ans que des gens attendent une décision sur ce jugement. Et ils sont toujours, aujourd'hui, dans l'incertitude. Parce que les décisions, c'est lundi déjà. Mais c'est juste pour savoir si ça sera rejugé. Voilà. La justice est vraiment difficile à rendre. Je n'accable pas les juges. C'est vraiment difficile à rendre, la justice. Car il est difficile de faire la lumière sur les affaires. Imaginez 30 000 pages d'instruction. C'est l'équivalent de plus de 20 Bibles. Vous imaginez ? Heureusement, la Bible contient des vérités plus sûres et plus fiables en moins de pages. Aucun juge sur cette terre ne peut garantir qu'il ne s'est jamais trompé. Mais nous allons parler de jugement ce matin, oui. Mais vous verrez que ce jugement est bien différent des jugements dont nous pouvons entendre parler. Il ne faut pas se laisser tromper par les jugements judiciaires qui peuvent exister. Ça n'a rien à voir. Il sera rapide, infaillible et définitif. Prions d'abord. Seigneur, merci. Merci de nous conduire chaque jour, de nous éclairer sur ta parole et sur ta volonté, Seigneur, avec plus de vérité et de fiabilité que n'importe autre source. Toi, Seigneur, tu sais nous éclairer, nous accompagner, nous soutenir aussi. Tu es notre roc, comme nous l'avons chanté. Tu nous soutiens en toutes circonstances. Alors que nous sachions nous appuyer sur toi en toutes circonstances et avoir foi en toi, Seigneur, en ton jugement, en ta justice, Seigneur. Amen. Alors, pour parler de jugement, puisque ça va être le thème du jour, le jugement, nous allons prendre la suite du passage que nous avons vu la semaine dernière. Nous étions dans Apocalypse 20 avec Nicolas. Eh bien, on prend la suite, du verset 11 au verset 15. Donc, du verset 11 au verset 15. Donc, je vous lis. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Alors, c'est un texte un peu difficile, car c'est quand on parle de jugement, ça paraît toujours un peu difficile. Surtout cette notion d'étang de feu, jeté dans l'étang de feu. C'est vraiment une notion assez dure définitif. Nous allons donc essayer de comprendre c'est quoi le jour du jugement. En quoi consiste ce jour, le jour du jugement? Ensuite, nous verrons que c'est d'abord un jour de justice. C'est le jour de la justice, le jour où la justice sera pleinement appliquée. Et enfin, nous verrons que c'est un jour attendu. Et pourquoi je dis ça? On verra. Tout d'abord, le jour de jugement de Dieu. Alors c'est un jour inévitable. Il est prévu. Paul dit aux Athéniens en Actes 17:31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, selon qu'il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ce jour est prévu. Il est prévu depuis le commencement. Car Dieu est un Dieu qui juge. Ça, il ne faut pas en douter. Il a donné des signes à travers le temps de sa justice. Par exemple, avec Noé, au temps de Noé. Il a jugé et condamné le peuple. Sauf la famille de Noé. Au temps de Sodome et Gomorre, devant Abraham, il n'a pas trouvé 10 justes qui aurait permis de sauver Sodome et Gomorre. Il a appliqué sa justice. Alors, c'est des jugements, ça prouve la justice de Dieu, mais ça n'a pas de rapport avec le jour du jugement. Parce que là, c'est bien des jugements collectifs. Tous ces morts seront rejugés au jour du jugement. Ils ont juste subi leur première mort. Mais Dieu est un Dieu qui juge et qui condamne l'injustice. On retrouve aussi dans les psaumes, psaume 94, verset 15, que le jugement sera conforme à la justice. Et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Et David nous dit aussi, en psaume 9, verset 7, « L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. » Et on voit la notion de trône tout à l'heure, nous avons lu dans le premier texte. David avait déjà cette vision du trône du jugement. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui vient avec l'Apocalypse, non. Cette notion de trône et de jugement est présente dans toute l'histoire de la Bible. Jésus revient et avec lui le jour du jugement. La date est fixée par Dieu, le Père, depuis le commencement. Personne ne peut changer cette date. Nous devons regarder autour de nous en nous disant tout sera soumis un jour à Dieu. Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je vis, ce que je subis passera par le jugement de Dieu. 1 Corinthiens 4, 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Que nous devons nous en remettre au jugement de Dieu à venir quand nous subissons des difficultés dans le nom de Jésus. Car il y aura ce jour inévitable qui approche, le jour du jugement. Mais qui va juger? C'est le jugement de Dieu par Jésus-Christ. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Encore une fois, le trône. Et c'est Jésus, le Fils de l'homme, qui s'assiera sur ce trône. Et Jean 5, versets 22 à 23, c'est encore plus précis. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc c'est bien Jésus qui juge. Mais Jésus est aussi notre avocat. Comme quoi, ça n'a rien à voir avec le système judiciaire français, parce qu'on ne verra jamais dans la justice française un juge et avocat, sinon ça créerait un scandale. C'est pour ça qu'il ne peut faire de lien avec la justice que l'on connaît. notre pays. 1 Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc il est à la fois celui qui va juger, mais aussi notre avocat pour nous défendre. Bah, pour défendre qui d'ailleurs ? Bah, c'est précisé un peu plus loin dans 1 Jean 2, au verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est-à-dire être son disciple. C'est pour ça que j'aime bien parler plutôt de disciple que de croyant. Parce que croire ne suffit pas. Jésus a dit lui-même, les démons croient aussi. Non, croire ne suffit pas. Il faut vivre sa foi, il faut avoir foi en Jésus-Christ, avoir confiance en lui, remettre toute sa confiance en lui pour ce jugement. Croire ne suffit pas. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et cela veut dire qu'il est la vie et nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Alors, je vais aborder un thème plus polémique, un jugement pour tous. Il vient écrit en 2 Corinthiens 5, 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il est bien écrit ici, tous. Et Paul le précise aussi en 2 Timothée 4, 1 ou en 1 Pierre 4, 5 en disant que les vivants et les morts seront jugés. Et pourtant, quand on lit le texte qu'on vient de lire, en prenant un verset qui est juste avant, en Apocalypse 24, donc juste avant, il est écrit « Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent de... et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Alors, s'ils sont revenus à la vie, comment peut-on considérer qu'ils font partie des morts qui sont juste après ? Je vous avoue que ça m'a troublé quand j'ai préparé ce message. Et j'avais l'impression que rien ne me donnait des éléments pour m'éclairer. Et pourtant, aujourd'hui, je pense, même si je suis sûr, qu'on ne doit pas relier les morts du verset 4 avec les morts des versets sur le jugement. Qu'est-ce qui me donne cette assurance ? Eh bien, quand j'ai prié et que j'ai demandé vraiment à l'éclairage, eh bien, l'éclairage est dans le texte lui-même, au verset 15, tout simplement. Qu'est-ce qui est écrit au verset 15 ? « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans ce livre fut jeté dans les temps de feu. » Cela veut dire qu'il y en a qui ont été trouvés dans le livre de vie. Et qui est écrit dans le livre de vie ? C'est ceux qui ont confié leur vie en Jésus. C'est ceux dont Jésus a consigné le nom. Notre avocat a consigné ce nom dans le livre de vie. Et tous ceux qui ont été trouvés, écrits dans ce livre de vie, ne furent pas jetés dans les temps de feu. Par contre, quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Je remercie le Seigneur de m'avoir éclairé sur ce passage parce que je butais vraiment. En tant que disciple, il ne faut pas s'attendre à passer à côté du jour du jugement. Nous le vivrons différemment. Mais nous le vivrons. Mais différemment. Je viendrai un peu plus tard dessus. Si tu n'as pas encore fait le choix de confier ta vie en Jésus, ne tarde pas. Le jour du jugement approche. Et maintenant, tu es averti de la seule voie possible, Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui écrira ton nom dans le livre de vie. Aie foi en lui seul. Parce que le jour du jugement sera d'abord le jour de la justice, où la justice sera appliquée pleinement. Pourquoi peut-on être sûr que la justice sera appliquée pleinement ? D'abord parce que les secrets seront révélés. Romains 2, 16, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Tout sera révélé. On ne peut rien cacher à Dieu. Pas forcément dans les évangiles, mais dans l'Ancien Testament, on retrouve Ecclésiaste qui dit en chapitre 12, verset 14, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Tout est consigné. Tout est écrit. Et tout sera révélé au jour du jugement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut constater que bien des crimes restent impunis. J'ai lu dans Le Parisien qu'un homicide sur 8 était non résolu. 1 sur 8, c'est énorme. Parce que on n'arrive pas à savoir qui a pu commettre ces crimes. C'est la limite des connaissances des hommes. Et encore, dans les 7 autres qui restent, il y a peut-être des erreurs aussi. Voilà. Les hommes, on a la limite de notre connaissance. Et on voit des affaires comme le petit Grégory qui durent des années, on ne sait pas. On a beau chercher, comprendre, on ne sait pas. Et on ne saura probablement jamais. Sauf au jour du jugement. Quand tu subis une injustice, remets cela entre les mains de Dieu, qui jugera les actes de chacun. Alors bien sûr, si cela est passible devant la loi, tu as le droit de porter plainte, mais aussi de confier ça entre les mains de Dieu, qui lui, tu es sûr qu'entre ses mains, ça sera jugé de la bonne manière. Ne cherche surtout pas à te venger, car c'est toi qui te commettrais une faute. Proverbe 20-22, ne dis pas « je rendrai le mal ». Espère en l'Éternel et il te délivrera. Paul nous dit en 1 Corinthiens 4-5, j'ai déjà lu la première partie tout à l'heure, « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » C'est un peu bizarre pour parler de jugement. « Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » En fait, ici, Paul parle à des disciples de Christ. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au jour du jugement, on ne recevra pas forcément la condamnation, mais plutôt des récompenses. Cela est plus précisé en 1 Corinthiens 3, versets 11 à 14 aussi. Le chrétien est sauvé. Celui qui met place sa foi en Christ est sauvé. Et il reçoit une récompense variable par rapport à ce qu'il a construit avec le Seigneur. Les œuvres, entre guillemets, pas trop forcément ce terme, j'ai pas trouvé autre chose, les œuvres des disciples ne servent pas à condamner, mais à récompenser. Il ne faut surtout pour autant pas chercher à rechercher les récompenses. C'est pas ça le but du disciple. Il faut servir avec zèle, selon la volonté de Dieu. Alors, ne restez pas une petite flamme avec une petite flamme dans le cœur de Jésus. Pour Jésus, excusez-moi. Je recommence. Ne restez pas avec une petite flamme dans le cœur pour Jésus. Au contraire, votre flamme doit briller pour éclairer le monde avec ce message de vérité. Jésus revient pour juger les vivants et les morts. Alors, tournez-vous vers lui et rendez-lui honneur et gloire. Comme les secrets seront révélés, ce sera la fin de l'injustice. Le mot qui revient le plus avec le jour du jugement, c'est probablement le mot justice. Ecclésiaste 3:7, j'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Dieu jugera le juste et le méchant. Alors on peut vivre des temps de souffrance, d'injustice. On peut constater aussi que bien trop souvent, le fort ou le malhonnête gagne. Si on prend le cas de la Corée du Nord, vous voyez, depuis 1948, la famille Kim règne sur le pays. Le grand-père, le père, maintenant le fils. Cela fait donc 70 ans qu'ils sont à la tête de ce pays. Et ce pays n'est plus ni plus ni moins que le premier pays dans l'index mondial des persécutions des chrétiens. Mais ils seront jugés un jour. Cette injustice sera réparée au moins au jour du jugement. Peut-être avant, mais au moins au jour du jugement. Il faut en être sûr. Et c'est la différence majeure entre la justice de Dieu et la justice des hommes. Il n'y a pas d'incertitude. Nous savons que tout sera jugé. Ce sera la fin de l'injustice. Parce que la justice des hommes, c'est trop souvent source d'incertitude. On nous parle d'intime conviction, ou à l'inverse, de présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr. Le jugement de Dieu, lui, c'est toute la vérité connue et un jugement sans faille. Alors, je pose deux questions. As-tu une pleine confiance dans la justice de Dieu ? As-tu une pleine confiance dans la justice de Dieu ? Et es-tu prêt à lui remettre toutes les injustices subies dans ce monde ? Maintenant, nous sommes dans l'attente de ce jour du coup, avec toutes ces injustices. Nous devons nous préparer pour ce retour. Et comment pouvons-nous nous préparer pour ce retour ? D'abord en tenant ferme. En tenant ferme à l'image de Noé. Je prends Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et nous devons être à l'image de Noé, ferme. Il a subi des pressions, il a subi des railleries. Il était incompris par le monde qui l'entourait. Mais il a gardé foi. Il a gardé le cap fixé par Dieu car il avait confiance en sa justice et en son jugement. Et c'est ce dont, c'est cette manière-là que nous devons vivre, notre foi. Garder le cap, avoir une pleine confiance dans la justice de Dieu. Il faut tenir ferme car il y aura des moments difficiles avant de vivre ce jour. Jésus nous le dit en Matthieu 13, verset 13. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la foi qui sauve. Je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure dans la prière, je crois que c'est Christophe. Ayez pleinement foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Suivez-le avec zèle et servez-le. Soyez fermes. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce jour viendra. Matthieu 13, 33. Et en ce jour, ça sera la séparation. Alors, qu'est-ce que j'entends par la séparation ? Ce temps de séparation, ce n'est pas un temps de peur pour les disciples. 2 Timothée 4, 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auraient aimé son avènement. On voit que là, c'est un jour de joie. Si pour beaucoup, le jour du jugement sera un jour terrible, c'est vrai, quand on lit ce texte de l'étang de feu, c'est un jour terrible. Nous, en tant que disciples, nous devons l'attendre comme le jour de la libération totale, le jour de la justice totale. Libérés de ce monde déchu pour entrer sous un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse 21.1. Le jour du jugement fait partie intégrante de notre espérance. C'est l'étape indispensable de séparation du bon grain et de l'ivraie. Et c'est ça, Matthieu 13, 24, 33. C'est la parabole du bon grain et de l'ivraie. Ça sera le jour de la séparation. La séparation du bon grain que sont les disciples et de l'ivraie. Nous devons attendre ce jour et nous préparer à ce jour. En conclusion, avec le retour de Jésus, viendra le jour du jugement. Jésus revient, oui. Jésus revient et le jour du jugement aussi. Attends ce jour avec confiance, en mettant toute cette confiance en Jésus-Christ, ton Sauveur. Si tu n'as pas encore proclamé que Jésus est ton Sauveur et ton Maître, ne tarde pas, car le jour approche. Il est mort pour toi sur la croix, pour le prix de tes péchés. Il est ressuscité pour t'offrir la vie éternelle. Reconnais cette vérité et confie-toi en lui. Alors, tu seras sauvé. Comme le dit Paul en Romains 19, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Prions. Seigneur, merci. Merci car tu as payé le prix de nos péchés. Tu es mort à la croix pour nous et tu es ressuscité. Nous savons que quand nous confions en toi, en proclamant ton nom, Seigneur, tu es avec nous, que tu écris notre nom dans le livre de vie. Merci, Seigneur, de nous accorder ton amour comme tu le fais. Merci d'être notre avocat pour le jour du jugement. Merci Seigneur de tout ce que tu nous donnes. C'est vrai que nous ne méritons rien. Nos œuvres ne sont rien, Seigneur. Rien pour être sauvés. Seul toi et ton sang nous rachètent, nous purifient, Seigneur. Tu as vaincu la mort pour nous, Seigneur. Et nous te rendons grâce. Amen.